La première, entrez sans frapper.
Il est 9h17, nous recevons Christine O'Krent ce matin dans Entrer sans frapper à l'occasion de l'apparition de Clinton Trump, l'Amérique en colère chez Robert Laffont. Merci Christine O'Krent.
Merci à vous.
Nous ce matin et nous avons aussi en plateau Nicolas Willems, journaliste au Service Monde. Nicolas, et vous suivez pour les radios de la RTBF la campagne américaine. Alors je vais vers vous Nicolas, vous l'avez écrit Christine, on en parlera après avec vous. Que trouve-t-on dans ce Clinton Trump, l'Amérique en colère?
Eh bien en fait, le livre revient sur la campagne présidentielle américaine. Une campagne pleine de surprises, une campagne brutale, agressive, haineuse, comme le souligne le livre. Deux candidats qui s'affrontent, deux candidats que tout oppose. Hillary Clinton, première femme à briguer la présidence des États-Unis. Donald Trump, premier candidat contemporain sans expérience politique. Ce livre est une excellente présentation du contexte et des enjeux de cette course à la Maison-Blanche. Une Amérique en colère, une campagne atypique, deux systèmes de valeurs qui s'opposent, deux candidats qui représentent deux visions de l'Amérique et deux campagnes qui s'entrechoquent de manière violente et brutale.
I think it's fair to say this is not your typical election.
Have you always told the truth?
I've always tried to.
Hillary Clinton is a bigot.
These are racist ideas, race-baiting ideas, anti-Muslim, anti-immigrant, anti-women.
When you're running for president, I think you have an obligation to be healthy.
Every time I think about Trump, I get allergic.
I have a winning temperament. I know how to win. She does not have
Secretary
how to win.
Wait. Secretary Clinton.
Woo! Okay.
Voilà un extrait de la série de podcasts sur les élections américaines proposée en ce moment par le New York Times. On se rend compte hein, dans ces petites phrases, voilà la tension, les chocs, disons, les invectives en dessous de la ceinture entre les candidats. Christine O'Krent, peut-on parler d'une campagne atypique ?
Elle est atypique à moins qu'on ne se rende compte, et ça a été mon but en faisant cette longue enquête. En fait, l'Amérique n'est pas du tout ce que l'on croit, elle n'est plus ce que
voilà,
l'on croit.
Voilà, c'est la question que vous posez au début.
On pensait qu'il y avait en gros deux Amériques, j'avais d'ailleurs fait un livre là-dessus, Bush, Kerry, les deux Amériques, c'est-à-dire en gros une Amérique conservatrice, très religieuse, traversée par des courants extrêmement puritains, votant républicain et donc reconduisant des dynasties politiques comme les Bush, mais aussi Romney, qui était le candidat il y a 4 ans, fils de sénateur, etc. Très riche homme d'affaires, mormon en plus. Et puis de l'autre côté, les démocrates, on ne savait plus très bien ce que c'était, mais enfin en gros, des sociaux-démocrates presque à l'européenne. Et en fait, cette année, on se rend compte que dans cette Amérique qu'on méconnaît, c'est-à-dire l'Amérique du milieu géographiquement, donc en général, on va
bien
à
sûr.
New York, on va à Los Angeles, on dit chic, on connaît l'Amérique. Non, l'Amérique qui vote, c'est celle du milieu, qui est une Amérique extraordinairement bouillonnante de colères diverses et contradictoires. Et au fond, ces deux candidats, Hillary Clinton, tout le monde s'attendait, bien évidemment, à ce qu'elle se présente. Et on pensait qu'en face, il y aurait qui ? Il y aurait Bush,
voilà, exactement.
Le plus jeune, le père cadet. Et tout le monde bâillait déjà d'ennui en disant quelle horreur, le choc de deux dynasties. Moi, j'avais commencé à travailler là-dessus d'ailleurs. Et puis, on a vu surgir, et personne ne s'y attendait. Côté républicain, ce Donald Trump, qui est en fait un animateur de télé-réalité, un battleur, un milliardaire à l'empire, plein de trous. Il a fait 7 fois faillite, mais c'est un aventurier de l'argent, comme les Américains d'ailleurs en fabriquent et comme ils les aiment. Et ça fait partie de l'extraordinaire succès qu'il a vis-à-vis de gens qui considèrent en gros que leur propre rêve, pardonnez-moi,
il n'y a pas de souci,
que leur propre rêve est ébréché. Et donc ce sont surtout des blancs d'âge mûr qui sont très inquiets parce qu'ils voient la montée des hispaniques et des afro-américains qui sur le plan démographique plus d'enfants. Donc ils se disent oh là là, mais dans une ou deux générations l'Amérique n'est plus un pays blanc. Et ils voient en plus ces gens-là très conservateurs qui votent républicains de père en fils, si j'ose dire. Ils voient que ce système politique dominé par les républicains qui maîtrisent le Congrès et qui ont d'ailleurs bloqué Barack Obama dans beaucoup des réformes que ce dernier a tenté d'entreprendre, eh bien malgré cette emprise politique, le pays glisse vers un modèle culturel qui n'est pas le leur. L'égalisation du mariage homosexuel au niveau fédéral, légalisation du cannabis dans certains États, légalisation de l'avortement dans certains États, et on sait que l'avortement reste un problème explosif aux États-Unis.
Bien sûr. Alors, ce qui frappe, et on l'entend dans le podcast du New York Times ici, c'est qu'une campagne n'a probablement jamais, mais c'est à vous de nous le dire, été à ce point habitée par les attaques d'un candidat contre l'autre, plus que sur la programmatique, sur la politique. Ici, on a vraiment l'impression que c'est un discours contre et pas un discours de construction d'un pays.
Oui, mais il faut remarquer et regretter que c'est le cas dans nos démocraties aussi. Il y a quand même une usure, si vous voulez, de nos démocraties. Et ce que l'on voit aux États-Unis, c'est l'usure de ces deux grands partis qui alternent au pouvoir depuis presque toujours. Mmh. Et on voit que le Parti républicain, vous avez une élite républicaine qui avait complètement perdu le contact avec sa propre base. Uh-huh. Et de la même manière, une élite démocrate, devenue un parti d'experts, qui a aussi perdu le contact, et en particulier avec les jeunes. Uh-huh. Et d'où... Et c'est là l'autre surprise de cette campagne. On a vu surgir ce vieux sénateur dont personne n'avait jamais entendu parler, Bernie Sanders, et qui tout à coup a enflammé et politisé une génération qui a beaucoup de mal à imaginer qu'Hillary Clinton corresponde véritablement à leur désir politique, puisque Clinton fait partie du paysage depuis 25 ans et qu'elle en est venue à incarner le système.
Il a même obligé Hillary Clinton, finalement, après donc la convention démocrate, à recentrer, disons, son discours plus à gauche aussi.
Oui, tout à fait. il a quand même obtenu, Sanders, 43% des électeurs démocrates qui se sont mobilisés pour les primaires, puisqu'ils ont ce très long processus. Mmh. Et on pensait que Sanders, comme Trump, d'ailleurs, on se disait, oh, ils feront trois petits tours et puis c'est fini. Et pas du tout. Sanders, il s'est accroché jusqu'au mois de juin. Ce qui veut dire que Hillary Clinton a dû se battre sur deux fronts. Elle a dû quand même décrocher, en quelque
sorte, bien sûr, son ticket
et faire en sorte que Sanders accepte de s'éclipser. Et puis se battre contre Donald Trump. Il faut bien voir que Trump vient de la télé-réalité, il vient des tabloïds, des journaux populaires new-yorkais. Il pratique le comique de l'insulte,
oui.
Qui est très très courant aux États-Unis. Dans tous ces programmes tard le soir à la télé, vous avez des gens qui injurient tout le monde. Mm-hmm. C'est un peu comme ça chez nous aussi. Enfin,
bah, ça commence.
Ça commence, oui.
Ça commence.
C'est pas terrible. Hein.
Non, c'est pas génial.
Alors, vous ajoutez à ça une bonne dose de réseaux sociaux.
Exactement,
et de Twitter, où les gens sont anonymes, ils balancent ce qu'ils veulent. Tout et n'importe quoi, comme Trump d'ailleurs, qui dit une chose et son contraire.
Il y a une phrase justement intéressante dans votre livre quand vous dites « l'ignorance devient un atout, sinon un gage de fiabilité ».
Oui,
c'est vraiment ça.
Parce que moi j'ai discuté avec des militants de Donald Trump et je dis « mais attendez, il dit quand même des absurdités ». Enfin, je veux dire, faire un mur, c'est absurde, renvoyer 11 millions de clandestins chez eux, mais comment on fait?
Ouais. L'histoire des vaccins.
Ah, mais non, mais il a raison. Et je dis, mais vous vous rendez bien compte que c'est absurde? Oui, oui, mais ça m'est égal. Moi, je veux quelqu'un qui renverse la table. Je veux quelqu'un qui bouscule le système. Oui, mais il n'y connaît rien. Oui, mais c'est pas grave. Voilà. Il y a un tel rejet. Alors, encore une fois, ce n'est pas l'élection. C'est pas une élection au suffrage universel direct.
Non.
Il s'agissait des gens véritablement mobilisés parce que Donald Trump est un as du marketing. Il a compris qu'il y avait une énorme part de marché autour de l'immigration, de la xénophobie, etc. Et puis, il a mis des mots sur cette colère. Même pas des phrases. Il se préoccupe pas de faire des phrases.
Ah, c'est dingue.
Il agglutine des mots. Et des mots très violents. Et qu'il répète sans arrêt. Il commence d'ailleurs par dire, on l'entendait dans ce que vous avez diffusé à l'instant, « Je suis le plus beau, je suis le plus fort ». Il a d'ailleurs rassuré tout le monde sur sa virilité.
Exactement,
ce qui était
oui.
quand même aussi un moment saisissant.
Dingue.
D'un débat oui, présidentiel. Et il procède ainsi. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il a perdu en tout cas le premier des trois débats télévisés. Le prochain aura lieu dimanche soir, heure américaine. Mais le premier, il l'a perdu parce que Hillary Clinton, évidemment, c'était très, très travaillé à taper là où ça fait mal,
ouais.
C'est-à-dire sur le narcissisme de Trump, en disant « mais en fait, t'es pas un brillant homme d'affaires, t'as fait cette fois faillite, tu payes pas tes factures, tu payes pas tes impôts, tu n'es qu'un héritier, etc. » Et on a vu Trump progressivement, d'abord se défendre sans arrêt, devenant Rubicon, disant « mais je suis le plus grand, le meilleur, et regardez mon dernier hôtel à Washington, comme il est beau ».
Et en plus, c'est il est dans la bonne rue, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est hallucinant. Donc il a quand même, il vient d'inaugurer un hôtel
la
sur l'avenue qui est sur la Maison Blanche tout de même. Ça veut dire des choses. On va parler encore avec vous, Nicolas Williams et Christine Ockrent. Bien sûr, il y a un truc que je trouve effrayant, c'est que votre livre fait 300 pages et vous écrivez 300 pages et la pratique conclusion pratiquement du livre, c'est celle-ci. La campagne présidentielle américaine a révélé et accéléré un phénomène qui partout bouleverse les pratiques démocratiques. Les faits n'ont plus aucune importance. L'ignorance devient un atout, sinon un gage de fiabilité. Donald Trump l'a compris depuis longtemps. Qu'importe la véracité du propos, ce qui compte, c'est l'intensité de l'écho qu'il suscite. C'est-à-dire que tout cet argent, parce qu'une campagne présidentielle est un business absolument incroyable, tout ce pouvoir qui va être mis, parce que, soyons bien d'accord, le président des États-Unis est souvent l'homme ou la femme, peut-être le plus puissant ou la plus puissante du monde, tout cela ne va plus être supporté que par des encarts publicitaires et des mots. Et là, du coup, ça fait extrêmement peur. On en parle avec vous dans quelques instants, Christine.
La première, entrée sans frapper.
Christine Ockrent est toujours notre invitée ce matin dans Entrée sans frapper à l'occasion de la parution de Clinton Trump, l'Amérique en colère chez Robert Laffont. Nicolas Williams, vous êtes toujours avec nous pour diriger cet entretien finalement, chacun son truc, vous savez la politique. Alors on parlait hors antenne et c'est extrêmement important bien sûr, on sait que Donald Trump arrive dans la primaire républicaine, ils sont 17 républicains pour la primaire, il va les écraser les uns après les autres, pratiquement avec vulgarité, bien sûr, mais du bout du doigt. C'est extrêmement impressionnant, bien sûr. Et les médias américains vont réaliser une chose, c'est que Trump fabrique de l'audience et donc beaucoup d'argent. Est-ce que la réussite aujourd'hui dans la campagne de Donald Trump, elle est due au fait que c'est un entertainer qui fait monter les audiences des médias et donc le prix de la publicité? Est-ce qu'on en est là, Christine Ockrent?
Je crois que c'est un facteur extrêmement important dans le phénomène Trump. Mais il ne faut pas oublier que Donald Trump a un passé à la télévision. Pendant 10 ans, il a animé une émission de télé-réalité
The Apprentice.
Qui n'a eu aucun succès, en tout cas en France. Elle avait été achetée par M6, je crois, et ça n'a pas marché.
Non.
Mais aux États-Unis, ça veut dire que Trump, c'est une marque. Donc, quand il s'est lancé en politique, en fait, il avait des ambitions politiques depuis un certain temps. Personne ne le prenait au sérieux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il voulait se venger de tous ces snobs de Washington. Mais il était connu de l'Amérique profonde. L'émission, à chaque fois, se terminait par un rugissement de Trump qui disait « You are fired !»
Vous êtes viré.
Tu es viré, parce que le but de l'émission, c'était de proposer un job à des gens qui devaient concourir. Et donc, sa marque, son nom, il le met aussi sur des gratte-ciel qui ne lui appartiennent pas d'ailleurs. Il les a mis sur des casinos, il les a mis sur des golfs, il les a mis sur des steaks, il les a mis sur des cravates, il les a mis sur, d'ailleurs pas fabriqués aux États-Unis.
Oui.
Mais donc, en quelque sorte, il arrive là-dedans, il est une marque. Clinton aussi est une marque, mais c'est une marque traditionnelle dans l'univers politique et en quelque sorte engluée quand même dans toutes sortes de scandales, etc., etc. Alors que Trump arrive et il touche un public qui n'est pas le public de la politique traditionnelle. Et il arrive à mettre des mots sur la colère de ces gens-là qui s'estiment délaissés par les élites. Enfin, le populisme, on voit ce que ça donne un peu partout. Ce sont toujours les mêmes phénomènes.
Et rien que le slogan « Make America Great Again », on aurait pu y penser avant, veut tout dire aussi. C'est finalement quelque chose qui rappelle un peu ce discours populiste, rendre à l'Amérique sa grandeur, une Amérique sur le déclin, menacée, comme vous l'aviez souligné, par les latinos, les hispaniques, par la mondialisation. Ça parle à la classe blanche, moyenne, américaine.
Oui, ça parle à une certaine Amérique crispée, une Amérique qui ne voyage pas, qui n'a pas de passeport, il ne faut jamais oublier ça, et des gens, encore une fois, qui vivent un problème d'identité blanche. Parce que quand nous pensons aux États-Unis, on dit « oh là là, les Noirs, problème noir, ah, les Hispaniques, etc. » Il y a même maintenant une communauté asiatique qui devient très influente, et notamment dans le business et dans la nouvelle économie. Le patron de Google, enfin, il y a des Indiens en particulier, brillantissimes, qui sont maintenant... Mais on ne pensait pas qu'il y avait un problème d'identité blanche.
Est-ce que ce n'est pas une conséquence des années Obama aussi, ça, ce malaise d'une partie de la classe blanche américaine ?
Ah, il est certain que pour des racistes, il faut quand même les nommer par leur nom.
Oui, je pense qu'il faut utiliser le mot, oui.
Et aussi, avec ces réseaux sociaux qui entretiennent la théorie du complot, Donald Trump a été le premier, pratiquement en 2011, à dire, mais il n'était pas encore en politique officiellement, mais il reniflait tout ça. Et il dit, Obama n'est pas américain, il ne peut pas être président des États-Unis, en fait il est kényan, et en plus il est musulman, et en plus il est frère musulman, et alors ça donne au cours de la campagne, et d'ailleurs Daesh, en gros, c'est lui. Et à partir de là, il a poussé les choses si loin que la Maison-Blanche, à un moment donné, c'était bien avant cette campagne, a dû produire le certificat de naissance de Barack Obama, qui est né à Hawaï,